Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié?
Vous souhaitez suivre une formation technique, digitale ou de gestion?
Faites-vous accompagner financièrement pour gagner en compétences et en compétitivité.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Cette saison qui va pas se terminer en queue de boudin.
Effectivement, si vous arrivez cric-crac, ben vous avez plus de chances de louper votre avion et forcément vous êtes en retard.
Tu sais, un footballeur, c'est comme une poterie. Si, au début, elle commence par être déformée, mais pour la reformer, c'est impossible, elle a séché, c'est terminé.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
En compagnie de Romain Canouti, Sofiane Zouaoui du Winamax FC avec Walid Acharchour. Ça va toujours, les messieurs?
Extrêmement bien.
Il en reste
bien.
Une heure à tenir encore.
J'ai adoré cette citation de Kevin Diaz.
Tout bien.
L'image de la poterie.
Ben, je le vois regarder Demi Moore en fait.
Il est en plein Ghost. Ouais.
Je le vois totalement. Ah, les jeunes, vous avez vu ce film, les mecs, ou pas là?
Laquelle, pardon?
Ghost.
Non.
Demi Moore, il ne sait pas Demi Moore. Vous ne voyez pas qui c'est Demi Moore?
Moi, je t'ai dit, j'ai vu qu'un film, c'est Yamakasi.
Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié cette histoire. Attends, ça me fait doucement rigoler, c'est pas du cinéma. Ça me fait doucement rire. On l'embrasse, bien sûr. Vous l'avez tous reconnu, Thibaut Jean-Grande. Alors, ces derniers temps, on a beaucoup évoqué hein, les cas Didier Degard et Will Steele qui entraînent avec succès leur début en Ligue 1, sans avoir le diplôme nécessaire pour exercer à ce niveau. Le fameux BEPF, le brevet d'entraîneur professionnel de football. On va ouvrir un gros dossier BEPF. C'est une idée que tu as eue d'ailleurs, Romain. Je sais pas pourquoi d'ailleurs tu as eu cette idée, Romain.
J'ai regardé, pour tout te dire, j'avais lu dans l'équipe.
Ils ont fait un très bon dossier la semaine dernière.
Et en fait, il y a cette phrase. J'aime beaucoup les phrases dans le foot. Tu sais, des fois, j'en fais, ça fait des jingles. J'aime beaucoup la phrase d'Arrigo Sacchi qui dit pas besoin d'avoir été cheval pour être jockey.
Ouais.
Et on est de toute façon, nous, en plus, en train. Je trouve qu'il y a une hypocrisie énorme dans le football parce que nous, on pratique un métier en étant journaliste où tu n'as pas nécessairement besoin de faire une école. Et je trouve que derrière, sur d'autres métiers, on se drape de grande posture en disant non mais regardez, il a pas le diplôme et par contre agent n'importe qui a des prête-noms et compagnie et voilà, donc je trouve qu'il y avait une hypocrisie là-dessus et c'est vrai qu'ils mettent le nez dedans, c'est pas plus mal.
Et ben on va mettre le nez dedans avec deux mecs qui sont directement concernés. On est notamment avec Grégory Poirier qui est entraîneur de Martigues, leader de National 1. Salut Grégory.
Salut, bonsoir à tous.
Merci d'être salut, avec Grégory. Nous, Grégory.
Salut Grégory. Hein. Salut Grégory.
Avec plaisir.
Alors, je peux te dire qu'ici, il y a des mecs qui suivent en plus hein, ton FC Martigues. Je pense notamment à toi, Walid.
Oui.
Alors, toi, t'es le régional de l'État, Romain, mais je sais que tu suis Martigues.
Je suis allé voir un match de Martigues contre le Red Star, parce que je sais que Walid suit le Red Star. Donc, j'avais envie de le chambrer, en fait.
En tant qu'enfant du 93, j'étais obligé de. Je suis les matchs du Red Star.
Ah, donc, et t'es allé où?
Non, j'ai pas été à Martigues, j'ai regardé le match.
La Venise.
Il était diffusé sur Canal+, et j'ai regardé sur Canal+. Ouais.
Martigues a eu quelques saisons en Ligue 1. D1 ouais. D'ailleurs à l'époque, avec Ali Benarbia.
Ouais. Ouais.
Et leur meilleur. Dipanziani.
J'ai pas connu moi.
T'as pas connu Rudy Garcia, c'est là-bas hein, qui
ah, ouais.
Ah ouais, bien sûr.
Le grand Ali.
Bruno Genesio.
Il a joué là-bas aussi, effectivement. T'as raison, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Ah oui, purée.
Merci d'être avec nous, en tout cas, Grégory. On a également Julien Metz, alors qu'on connaît bien dans l'after également, qui est avec nous. Entraîneur de l'AS Soto au Congo. Salut Julien.
Salut, Ola Viva, est-ce que tu m'entends bien?
Ouais, je t'entends bien. Alors, Ola Viva, parce que t'es où là en ce moment?
Bah, je suis à Lisbonne.
Oh, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tu es en vacances encore?
Non, j'ai jamais de vacances. Moi, j'aimerais bien. C'est très beau ici, mais non, je suis dans une formation. En rapport un peu avec ton sujet.
Eh bah tiens, on va en reparler dans quelques instants. Grégory, je te présente, t'as 40 ans, t'es l'actuel entraîneur de Martigues, dont je disais leader de National 1. Alors pour bien te situer et te présenter, t'es né à La Rochelle, où t'as débuté ta carrière de joueur, t'as joué jusqu'en CFA 2, t'as ensuite rejoint Arles. Lorsque le club a atteint la Ligue 2, t'as pas été conservé, t'as signé ton premier contrat pro à Nîmes, qui est alors en Ligue 2, mais là, pas mal de blessures freinent ta carrière de joueur. Idem à Amiens, où tu joues ensuite, et à 30 ans, tu stoppes ta carrière pour un problème au tibia, et depuis, tu gravis les échelons en tant qu'entraîneur.
C'est ça, je dirais presque que j'ai eu la chance de me blesser tôt pour pouvoir être là où j'en suis aujourd'hui.
Si, pour toi, le BEPF, c'est quoi si tu devais lui donner un qualificatif, Grégory?
Je pense que c'est une étape indispensable pour intégrer, en tout cas dans mon parcours, avec mon parcours, je dirais, c'est une étape indispensable pour intégrer le monde professionnel en tant qu'entraîneur.
Julien Metz, que les auditeurs de l'After connaissent donc bien, toi non plus, t'es pas du tout issu du monde pro d'ailleurs, parce que Greg lui l'a connu en tant que joueur. Même question, pour toi le BEPF c'est quoi? En un mot aussi pour toi.
Alors je te dirais que je te ferai une analogie avec le permis de conduire.
Vas-y.
si tu l'as pas, bah si tu l'as pas, tu peux pas officiellement conduire, mais c'est pas parce que tu as le permis que tu es un bon conducteur, et c'est pas parce que tu n'as pas le permis que t'es un mauvais conducteur.
C'est pas mal.
Tu vois un peu ce que je veux dire.
C'est un peu du Saki remasterisé. Voilà, ouais, tout à l'heure tu citais Saki remasterisé.
Surtout que je viens dans une ville où des mecs des fois se disent bon ben on conduit
sans permis
et puis on verra ce que
c'est
se
dans
passe.
Toutes les villes. Rassure-toi, ça marche aussi.
On embrasse Ali Badou, tiens.
Alors, on rappelle, pour entraîner au plus haut niveau en Ligue 1, Ligue 2, il faut le BEPF. On a regardé Grégory avec Romain. T'es le seul
entraîneur. Excusez-moi, je vous coupe, même en national.
J'allais y venir, même en national. Et on a regardé avec Romain. T'es le seul entraîneur de National 1 à pas avoir le BEPF. Et c'est toi le leader de National 1. C'est beau ça ou pas?
Est-ce que c'est pas une bonne idée finalement de pas l'avoir? Parce que c'est étrange quand même.
Effectivement, j'ai signé au club de Martigues en N2 l'année dernière. On est monté à la fin de la saison et pour pouvoir entraîner, j'ai eu la dérogation. Le club aussi, donc on a ce droit l'année qui suit la montée de garder l'équipe, et grâce à cette dérogation, aujourd'hui, je peux entraîner.
Et l'année prochaine, Martigues.
L'année prochaine, je garde la dérogation en essayant de passer ce diplôme, hein, d'intégrer la formation.
Faut qu'il monte à chaque fois, quoi.
Non, même si on monte pas, je garde la dérogation.
Alors, voilà, ouais, question, chose qu'on ne souhaite pas. Imaginons, tu montes pas, d'ailleurs, ou tu montes et tu te retrouves sans club. Vu que tu n'as pas le BEPF, il se passe quoi?
Je redeviens un entraîneur de N2,
ouais.
Malgré c'est ma ouf, très bonne saison.
Ouais, ouais. La seule dérogation, c'est de passer de N2 à N1. Tu as la possibilité d'entraîner.
C'est dingue, ça.
Ouais.
C'est quand même assez dingue. Alors, rappel. Ouais. Hein.
Bon, après, entre-temps, tu peux le passer quand même.
Sauf que pour passer le BEPF, et c'est là on rentre dans des trucs un peu plus techniques, il n'y a que 10 candidats par an pour passer le BEPF. Donc, il y a beaucoup de candidats, il n'y a pas beaucoup d'admis. Alors, il y a plusieurs critères pour pouvoir prétendre, et les fameux prérequis pour le BEPF. Il faut avoir été entraîneur d'une équipe d'un club non pro pendant 5 saisons, ou avoir été adjoint d'une équipe pro pendant 5 saisons, ou avoir été au moins 10 fois joueur ou joueuse internationale A de la FFF, ou avoir disputé au moins 150 matchs de Ligue 1.
Ou être breton. Non, c'est autre chose.
Et je sais, Julien, qu'il y a certains passe-droits pour les anciens pros qui t'agacent, toi.
Ah ben, non, qui m'agacent, passe-droits, écoute, c'est... ça agace, je pense que ça n'agace pas que moi. C'est surtout, en fait, là, dans ce que tu as dit par rapport au nombre de sélections ou au nombre de matchs, en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre la logique. Pourquoi un passé de joueur utile au plus haut niveau te donne ce que tu appelles des passe-droits, ou en tout cas une forme de favoritisme pour un métier qui n'a rien à voir, en fait. Enfin, rien à voir, j'exagère un petit peu le trait, mais les qualités qu'on va te demander en tant qu'entraîneur, est-ce que tu les as développées dans tes sélections équipe de France ou tes 150 matchs niveau Ligue 1, si j'ai bien entendu. En gros, hein, si je résume, un joueur de foot, même le plus haut niveau, il a passé toute sa vie à ne penser qu'à lui, et c'est normal, parce que c'est l'état d'esprit qu'il faut pour faire une grande carrière. Et là, d'un seul coup, il va vouloir faire un métier. Alors moi, j'ai aucun problème avec ça, hein. C'est tant mieux qu'il veuille intégrer la formation, devenir entraîneur et tout. Mais d'un seul coup, il va devoir qu'il change complètement d'état d'esprit. D'un seul coup, il va falloir qu'il pense à tout le monde, sauf à lui. Parce qu'entraîneur, c'est ça. Donc moi, je sais pas comment tu fais en 6 mois, 3 mois, 1 an pour changer complètement d'état d'esprit, quoi. Donc c'est un peu ça, en fait. Moi, j'arrive pas à justifier. Et encore, avant, je sais plus si t'as dit toujours, mais il y avait aussi les tests de ton niveau de pratique. Et ça, c'était pour rentrer au DEF il y a quelques années. Je crois que ça n'existe plus. Ça existait aussi pour le BE. Et ça, voilà, ça c'est pareil. C'est des choses qui, pour moi, dans mon cerveau, ça passe pas, ça connecte pas, quoi. J'aimerais qu'on me l'explique, mais quand on me l'explique, en fait, quand on me l'a expliqué dans le passé, puisque ça fait 6 ans que je suis en Afrique maintenant, j'ai jamais trouvé ça légitime et crédible, quoi. Voilà, moi je prends toujours l'exemple de sans aller jusqu'à Saki ou quoi, mais je sais que j'avais fait un jour un tournoi, le tournoi de la Real Sociedad avec les jeunes. La meilleure équipe de jeunes que j'ai affrontée des U15, c'était une académie de Madrid. Le coach, il avait qu'une jambe, donc il coachait avec des béquilles. Et j'ai jamais pris un tournoi comme ça par une équipe, c'était monumental. Et je me disais à cette époque-là, en fait, lui en France là,
et il pourrait pas passer les diplômes.
Ouais. Voilà. Donc c'est là où moi je me dis. Mais je pense, comme je t'ai dit, que ça n'agace pas de point. Après, le problème, c'est que tu trouveras pas beaucoup de monde pour le dire.
Grégory, qu'est-ce que t'en penses de ce que dit Julien, justement, par rapport à ça? Est-ce que tu comprends qu'il y ait cette spécificité, le fait que le BEPF soit plus facilement accessible pour les ex-internationaux ou pour ceux qui ont au moins 150 matchs de Ligue 1?
où je le rejoins, c'est que je pense que le métier d'entraîneur, c'est un savoir transmettre. Aujourd'hui, votre carrière vous aide à avoir une expérience qui vous enrichit, qui vous aide à être sûrement un meilleur entraîneur. Mais c'est pas parce que vous avez été un bon joueur que vous êtes de suite un bon entraîneur. Aujourd'hui, on peut se poser la question, c'est sur les prérequis. L'entrée à la formation est très sélective. Il y a que 10 personnes qui sont préparants. Et les prérequis, vous imaginez bien qu'entre les joueurs qui ont 150 matchs de Ligue 1, les anciens internationaux, les parcours comme le mien, 5 ans de niveau N2, N1, N3, et les 5 ans adjoints, à la fin, il faut en choisir que 10. Donc c'est très sélectif, c'est ça qui est compliqué. Après, moi, j'ai vite perçu un petit peu, eu cette vision systémique, et je me suis dit, ça va être un parcours du combattant. Mais tant pis, ça va me demander beaucoup d'exigences, beaucoup d'investissements.
Et beaucoup de premières places, c'est ce que disait Sofiane, il faut monter à chaque fois.
Mais surtout, l'organisation, le fait de devoir enchaîner les saisons comme ça en N1 ou en N2, et en fait, ça t'impose pratiquement tout le temps de devoir passer ton diplôme en même temps que ton taf de coach, non?
Ce qui est compliqué, c'est que pour intégrer le club pro, il vous faut la formation, mais qu'à la formation, vous n'êtes pas forcément pris pour ces prérequis. Donc, après, il y a des degrés différents et il y a plusieurs, ça serait très long à expliquer, mais il y a plusieurs niveaux avant. Il y a le DES, il y a le BEF. Et c'est sûr que c'est très long. Et après, moi, je trouve ça bien que les anciens joueurs aient cette chance aussi de pouvoir être rapidement au niveau pro. Ce qui me dérange un peu plus, enfin, c'est pas que ça me dérange, mais c'est qu'il y a peu de place, en fait, si vous voulez.
Mais s'il n'y a pas de place, il y a peu de place. Enfin, je savais pas qu'on allait faire ce sujet, mais dimanche soir, j'ai regardé le Canal Football Club. Ça existe encore.
Oui.
Pas aussi bien que le club des 5, Walid, mais ça existe. Ils ont fait 15 minutes sur ce dossier-là. Enfin, eux, c'était un focus vraiment Didier Digard et Will Steele, les deux autres avec Grégory Poirier sur les trois divisions à pas avoir ce diplôme. Et il y a une intervention que vous connaissez, qui s'appelle Raymond Domenech, et il dit moi là, je l'augmenterai. Et en fait, tu comprends, en grattant un peu, tu comprends que le mec te dit, mais il faut pas qu'on soit trop, quoi. Son truc, lui, c'est de dire.
Mais ça, c'est le discours de l'UNECATEF, ils s'en sont jamais cachés. C'est de dire, nous, ce qu'on veut pas, c'est finalement brader le diplôme pour qu'on se retrouve avec plein de mecs qui ont le BEPF et qui aient pas suffisamment de postes pour eux.
C'est quoi la priorité? C'est que, on soit entre nous et que chacun
ait une part du gâteau. Ah, ça, c'est encore autre chose. Non, mais je te dis pas que
c'est la performance. Excuse-moi de parler de voir parce que tu es là, de parler du Portugal, mais j'ai l'impression quand même que tu donnes aussi, et c'est bien de donner sa chance. J'ai envie de dire, mais c'est dans tous les corps de métier. Ici, à l'after, il y a pas un truc, il y a pas besoin de faire allégeance à Daniel et Gilbert pour être. Il y a des gens qui.
C'est ce que j'ai fait.
C'est vrai que.
On n'en sera pas là-dessus.
Il
y a
différents parcours.
Ah bon, d'accord.
Non mais il y a différents parcours et tu regardes bien et là il y a que ce truc où il faut avoir un peu être bien avec les mecs de la Fédé et compagnie. C'est terrible et en plus ils s'en cachent pas et en plus ils sont contents et enfin je veux dire on. Ça a entré dans des grands trucs, mais c'est aussi pour ça qu'on en a envie d'en finir avec le système Le Graët et tout. Ça fait partie de ces trucs-là, ça serait bien de se mettre à jour.
Messieurs, restez connectés, restez avec nous. On va marquer une petite pause, on va revenir dans quelques instants pour poursuivre ce débat autour du BEPF. On est avec Grégory Poirier, entraîneur de Martigues, leader de National 1. On est avec Julien Metz, entraîneur de l'AS Auto au Congo, qui déroule d'ailleurs lui aussi. Il a eu un record d'invincibilité là d'ailleurs avec l'AS Auto. Et puis on est avec Walid Acharchour, Sofiane Zouaoui, on est avec Romain Canouti également. On vous attend en 32-16. Il y a des appels. Voilà, sachez qu'il y a des gars qui ont tenté de passer ce fameux BEPF. On sera avec Zach notamment dans quelques instants qui nous a appelé pour évoquer ça. Génération After revient juste après ça.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Toujours en compagnie de Sofiane Zouaoui, avec Romain Canouti, avec Walid Acharchour, avec vous au 32-16 également sur le hashtag RMC Live. On est également accompagné de Julien Metz, entraîneur de l'AS Auto, avec Grégory Poirier, entraîneur de Martigues en National 1, leader de National 1, deux leaders avec nous ce soir, mais qui n'ont pas le fameux BEPF. On est en plein dossier BEPF. Juste avant d'accueillir Zinc qui nous a appelé au 32-16, Julien, tu nous disais tout à l'heure que tu es à Lisbonne actuellement parce que tu fais une formation. Tu peux nous dire ce que tu fais là actuellement exactement?
Ouais, bien sûr que je peux. Justement, vu que quand tu es à l'étranger, c'est impossible de passer le BEPF pour moi parce qu'il faut entraîner en France pour le passer. Et puis il faut avoir les prérequis comme on a dit. Et donc comme moi j'ai quitté la France en 2016, ça fait un moment que je me suis pas mis à jour. Donc j'ai quand même besoin de tout ça et j'ai trouvé donc une formation privée délivrée par l'université, des facultés, comment on appelle ça,
la faculté de motricité
des motricités humaines. Voilà, je dis ça, fac de sport ici, de Lisbonne. Donc en fait, bah, tu l'expliqueras mieux que moi. Hein. C'est là où Carlos Queiroz a un petit peu théorisé le football dans les années 80 et où Mourinho a fait son cursus. Et donc en fait, c'est une formation privée où on te reçoit. Là, on n'est que neuf, hein, venus du monde entier. Il y a des Suédois, Danois, il y a un Indien, il y a un Anglais. Moi, je suis le seul de l'Afrique et le seul Français. Et en fait, donc c'est sur la base du CV et donc c'est en anglais parce que je parle pas portugais. Et donc voilà, c'est une formation privée, mais qui n'a pas de reconnaissance ni UEFA ni FIFA. Donc j'en sortirai pas avec un UEFA pro, mais j'en sortirai avec bah, le même contenu en fait, parce que tous les intervenants qui viennent, c'est des anciens prépa physique ou coach assistant ou directeur sportif de clubs comme bah, le Barça, Monaco, Liverpool, et puis évidemment les clubs portugais, Sporting, Benfica. La dernière semaine qu'on a fait en décembre, on a passé une journée au Sporting Lisbonne, donc j'ai pu parler avec Ruben Amorim, voir un entraînement, et il nous a présenté aussi un micro-cycle de 12 jours, je crois, où ils avaient 4 matchs, 2 de Ligue des Champions, 2 du championnat de Portugal. Et voilà, donc en fait, bah, j'arrive à avoir le contenu d'un diplôme pro, mais sans la qualification au bout. Donc, ouais. Donc voilà, donc il a fallu passer un entretien avec ça et j'ai eu la chance d'être retenu. Donc bah, j'en profite, j'essaye d'avancer, même si c'est un peu bloqué sur d'autres pistes.
C'est comme les kinés qui veulent pas faire médecine en France, enfin, ou qui peuvent pas et qui vont passer leur diplôme à l'étranger.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup d'entraîneurs hein, qui vont dans des pays étrangers où parfois les cursus sont plus raccourcis, où les délais, où les prérequis sont différents également. Grégory Poirier, est-ce que toi, t'as déjà envisagé d'aller à l'étranger, notamment, je sais pas, pour obtenir le fameux UEFA Pro, qui est l'équivalent européen du BEPF, justement, pour entraîner au plus haut niveau?
Non, pas du tout. Moi, je suis quand même très reconnaissant de la formation que j'ai eue avec la FFF. En termes de méthodologie d'entraînement, de projet, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est une formation qui est très sélective, mais très enrichissante, que ce soit dans la dimension collective avec les retours d'expérience des collègues, mais aussi avec l'apprentissage qu'on a eu, tous les outils que j'ai eu. Moi, quand je suis sorti de ma carrière de joueur, je suis arrivé devant un groupe, j'arrivais pas à transmettre. Et ça, je suis très reconnaissant envers la FFF parce que ce diplôme, aujourd'hui, il est très important. Encore une fois, il est très sélectif, mais par contre, moi, je suis très reconnaissant avec la formation que j'ai eue de la FFF.
Alors, il y a une autre problématique qui est liée à ce BEPF, c'est le coût de la formation. On n'est pas loin des 30 000 euros. Je suppose, Grégory, que tu vas essayer d'intégrer la prochaine vague de candidats au BEPF. Je crois qu'ils vont être annoncés au mois d'avril, d'ailleurs, les 10 élus, là. Comment on la paye, cette formation? C'est quoi? C'est le club? C'est toi qui payes? C'est comment?
En fait, c'est un dossier que vous envoyez. Donc là, j'ai été présélectionné dans les 35 derniers. Et puis, comme vous avez dit, il y en aura 10 au mois d'avril qui seront sélectionnés définitivement. C'est un dossier que vous remplissez où on vous demande votre retour, enfin votre analyse critique de vos expériences, votre projet personnel. Et en même temps, il y a tout un financement à avoir. Et souvent, ce sont les clubs qui aident, soit partiellement, soit totalement, à financer.
Il y a un des dirigeants de Reims qui expliquait que pour Will Steele, du coup, ils avaient vu aussi avec lui, et du coup, lui avait dû faire un effort sur son salaire pour être un peu, pour dire entre guillemets, bon, ben, à cause de toi, on doit payer des amendes. Donc voilà.
Il paye plus de 20 000 par match, hein, je crois.
Oui, il paye 25 000. Donc, c'est cette somme-là que Domenech veut augmenter. Mais
Lui, c'est 10 ans d'expérience professionnelle, il faut le préciser, parce que tout le monde dit Football Manager, etc. Il commence autour de 21 ans.
Il commence à l'agacer un peu, d'ailleurs.
Oui, il l'avait précisé en conférence de presse. C'est pas un mec qui n'a pas de diplôme, il a tous les diplômes nécessaires pour entraîner.
C'est ça qui est fou, c'est que c'est le cas de tout le monde. C'est-à-dire que on s'est penché sur le parcours de Grégory Poirier. Là, si Martigues, s'ils montent, ils ont le bonheur de monter. Je crois que ça va être sa 10e montée en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. Régis Lebris, on a l'impression que tout le monde le découvre avec Thibaut Leplat cette année, mais Régis Lebris, début 2000, il était déjà entraîneur.
Tu peux dire pareil avec Franck Hayes également.
Ça fait des années que les mecs sont en formation et ils charbonnent.
Quand on le découvre, ça fait 15 ans qu'il bosse en mon pro ou pas loin.
On accueille Zach qui nous a appelé au 32-16. Salut Zach.
Yo, salut l'équipe, ça va, vous allez bien?
Et toi Zach, ça roule? Zach.
Ouais, nickel. Bah écoutez, moi c'est plus pour parler du rang en dessous, pas forcément le BEPF, mais du rang en dessous, parce que ça nous concerne nous en tant que simple entraîneur qui sont éducateurs entre guillemets, qui prenons les gamins du quotidien, qui avons des rêves de réussite en fait, des rêves et qui sont pas passés par des clubs professionnels et qui ont pas un parcours professionnel. Et en fait, je disais comme au standard tout à l'heure, quand on se retrouve dans les plus hautes divisions en jeunes, ben on tombe sur ces divisions en fait où on se retrouve. Par exemple, moi dans le Nord, à l'époque où j'entraînais Wascal, on tombe sur des clubs comme Lille, comme Valenciennes, comme Lens. Voilà quoi, c'est les joutes du week-end avec les jeunes en 15 ou en 16.
Ouais.
Et on se retrouve en fait à taper tous les week-ends ces clubs-là qui sont qui ont des intendants, des tous ces trucs-là, et que nous on fait juste avec trois coupelles et des chasubles. Et on essaye donc nous de nous professionnaliser parce qu'on a ce rêve-là. On se dit bon, tout compte fait, on commence à être bon, on veut essayer de monter. Donc pour rentrer au BMF déjà, c'est la bannière parce que les mecs en fait font rentrer leurs potes. Je ne vais pas rentrer dans les débats des contrats de joueurs de National 2, National 3 qui sont utilisés pour être payés à travers des contrats BMF et rentrer entre guillemets dans ces trucs-là qui prennent les places de coachs qui et d'éducateurs qui sont importants auprès des jeunes. Et ensuite il y a le fameux BE. Le fameux BE qui est le plafond de verre, en fait, qui est le BEPF pour les éducateurs de ligue et des mecs qui n'ont jamais eu de carrière, entre guillemets, quoi, c'est-à-dire un minimum des matchs requis en National 2, National 3, voire au-dessus. Et on se retrouve donc dans un BE où on doit postuler, où on postule 5-6 fois d'affilée, on se fait recaler. Et en fait, on apprend, par exemple, cette année, on se fait recaler concrètement, on voit que des Cahuzac, donc à Lens, qui sont adjoints, prennent des places, Walid Meslouk, tous ces joueurs-là, professionnels, qui prennent des places, et des joueurs qui jouent donc en N2, qui sont utilisés dans ces contrats-là pour pouvoir, comme d'hab, payer les salaires, parce que les clubs font des micmacs à droite, à gauche, et on se retrouve sur la touche. Donc en fait, l'appel en même temps, et le débat aussi que j'aimerais bien poser aussi, c'est, mis à part ben, les deux invités, que c'est super, je trouve que le retour est super et c'est super impressionnant parce que c'est toujours bon d'entendre des gens qui bloquent à l'étape supérieure, mais l'étage inférieur plutôt. Aujourd'hui, un homme qui vient avec des idées claires, qui apprend en fait à s'organiser, qui apprend à aller vers ses clubs professionnels, les affronter concrètement en jeunes, faire des résultats. Aujourd'hui, on voit qu'en fait, le rêve n'est pas permis, c'est-à-dire qu'il y a un plafond de verre.
Ouais. Tu veux dire, Zach, que c'est à tous les étages, finalement, y compris dans
les
éducateurs.
Je vais vous donner une histoire complète, et puis elle va aussi marquer un peu plus et tirer l'alarme aussi sur l'état du football français actuel. C'est qu'aujourd'hui, un jour, en BMF, il prenait 90 personnes, qui est énorme quand même, parce que voilà, ça reste, ils drainent un ensemble d'éducateurs pour leur donner des diplômes. Et il y avait trois éducateurs d'un club hyper difficile, c'est-à-dire en termes de population, en termes de jeunesse, en termes de voilà, tout ce qui comporte toutes les problématiques de la société. Ces trois éducateurs-là se sont fait recaler. Ils ont pris trois éducateurs de clubs qui étaient rayonnants, parce qu'en fait, les mecs qui sont en face, qui nous font passer les entretiens, ben, c'est des amis du président, des amis de l'ami à l'ami à l'ami qui connaît, qui sait qui vient de tel club et tel club, donc on les prend. Ces trois jeunes se sont fait recaler, alors que le public qu'ils avaient, c'était eux qui avaient besoin du diplôme. Mmh. C'était eux qui avaient besoin de cette méthodologie. C'est eux qui ont besoin de toutes ces connaissances pour permettre, ne serait-ce que même pas d'avoir des joueurs professionnels, mais d'avoir des mecs, des bons citoyens de demain, de travailler avec eux sur des projets pédagogiques importants, des projets de vision à long terme, et essayer de s'en sortir. Donc même à ce niveau-là, en fait, on a des choix d'amitié. À ce niveau-là, on a un entre-soi au niveau des ligues locales qui fait qu'entre guillemets, on ne pourra jamais, mais au grand jamais, aujourd'hui poser nos fesses sur un banc de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou avec tout le rêve que ça comporte.
Ouais.
Donc c'est à ce sens-là que c'est
là où c'est ouais, là où c'est pas bon et par rapport au débat là que tu as Zach et ce que tu mets en avant, c'est que ça crée du ressentiment entre les mecs du monde amateur et les mecs du monde professionnel. Et je suis sûr, moi.
Voilà, c'est même entre amateurs.
Oui, même entre amateurs. Mais je suis sûr, moi, que même si tu posais la question, parce que j'avais lu une interview de Jean-Marc Furlan, lui, il dit, moi, quand on me met, quand on m'inscrit à la formation, c'était Aimé Jacquet à l'époque, il dit, moi, j'ai rien demandé, moi. En fait, lui, il me met, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et lui, il était plutôt, il allait vers l'argumentaire de Zach, il disait que, nous, ça crée du ressentiment par rapport à nous. Donc, il faudrait déjà plus de transparence, mais de toute façon dans tous les secteurs de la société, même dans le monde professionnel, tu sais que ça fonctionne aussi grandement par amitié, et ça c'est un gros problème. Mais il faudrait que dans le monde du foot, où il y a quand même besoin qu'il y ait un cycle vertueux par rapport à la qualité des personnes qu'on a pour le futur, parce qu'il y a plein de mecs qui sont dégoûtés de ce job-là, parce qu'ils se font caler 5, 6, 7 fois et au bout d'un moment tu lâches l'affaire, il faudrait plus de transparence, il faudrait peut-être plus de place également, je sais pas comment ça peut fonctionner exactement, mais il faudrait qu'on
ouvre un peu
peut-être
plus.
Peut-être que la DTN peut-être délègue une partie des formations à d'autres. Ouais, il y a beaucoup de fédés qui font ça maintenant. Et à des organismes privés qui elles donnent un label.
Parce que là, on est en train de dire, en gros, c'est pas ce qu'ils disent précisément, mais on peut penser que les footballeurs professionnels ou les mecs du monde professionnel, quand ils arrêtent leur carrière, ils volent la place des autres. Mais je suis sûr que moi, c'est pas leur envie non plus. Ouais. Je pense qu'un mec du monde professionnel qui bascule en tant que coach, il a aussi quelque chose à donner. Et c'est important de garder ces mecs-là aussi. Mais il faudrait plus de transparence, plus d'équilibre, et qu'on comprenne et qu'on donne plus la chance aux autres. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas.
Grégory, Julien, est-ce que ça vous parle ce que dit Zach également? Vous qui avez connu aussi le monde amateur, vous êtes issu de là en tant qu'entraîneur notamment, et en tant que joueur aussi d'ailleurs.
Moi, j'ai une anecdote qui est très drôle, mais qui fait pas rire quand tu l'apprends par rapport à ce que je viens de dire. Je sais pas qui c'est qui a parlé. Hein,
c'était Zach et Sofiane.
Ouais. Ok, Sofiane. Ben en fait, moi, issu de la région bordelaise, dans le fameux BE dont parlait Zach là. J'ai une anecdote qui illustre tout à fait ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que ce truc, cette espèce d'antagonisme amateur-pro, c'est là où ça nous mène par rapport à un mot que tu as dit qui est très juste, qui est le ressentiment, parce que de par certains favoritismes, ceux qui sont rejetés peuvent se dire « mais pourquoi lui et pas moi, alors que moi je remplis les critères, alors que lui non, etc. » Et en fait, il n'est pas du tout voulu par nous, le mec qui vient du monde amateur, ni par les pros quand on se retrouve, puisque moi je suis allé jusqu'à l'UFAA, donc BES. Et après, l'année dernière, j'ai passé aussi un truc pour les entraîneurs français de l'étranger. Donc, c'était par visio. Bah, j'étais le seul qui était issu du milieu amateur. On s'entend très bien. Et les anciens pros, moi, j'ai passé le BE en Bretagne. C'était des mecs comme Eddie Croupy, que je salue, Cyril Yapi. C'est des mecs que je voyais quand ils jouaient pour Lorient, pour Guingamp, tout ça. Et je me rappelais adolescent quand je les voyais jouer. Et en fait, les gars étaient super simples. Ils venaient me poser des questions. Ils étaient même impressionnés par mon parcours et mon expérience, vu que moi, j'avais commencé à 20 ans. Donc, voilà. Donc il y a rien entre nous, il y a pas de clivage. Et même eux, des fois, ils te disent « Ah ouais, toi, tu mérites par rapport à ce que tu as fait, moi, je suis là pour apprendre. » Donc ils ont l'humilité, tout ça. Mais c'est effectivement ceux d'en haut. Donc, et je n'ai pas envie non plus de globaliser, parce que Grégory a dit tout à l'heure, la formation, elle est bonne. Et ce qu'on y apprend, franchement, c'est très bien. Moi, je mets en application ce que j'ai appris dans les formations SSS. Le grand débat, il est sur l'accessibilité et il est sur ce ressentiment qui naît du fait que on se demande si un tel n'est pas privilégié par rapport à d'autres. Voilà. Après, j'avais une anecdote, donc pour pas que je l'oublie, hein, je me souviens d'un ancien joueur des Girondins au BE à Bordeaux, quand on l'avait passé, qui nous racontait qu'après un examen écrit, on se retrouve dans la cour, quoi, un peu comme quand t'as passé le bac. Toi, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Et lui, il vient nous dire, mais je comprends pas, le responsable de la formation, il m'a passé les réponses. Il a donné un papier avec les réponses. Et donc l'ancien joueur des Girondins, je dirais pas son nom, il nous a dit, mais il m'a pris pour un con ou quoi? Et il croit que je suis trop con parce que je suis un ancien pro, que je peux pas répondre. Et ça, ce genre de truc-là, quand t'es entre candidats, tu dis, mais attends, mais c'est incroyable quand même. Le responsable de la formation, il file les réponses à lui, quoi. Alors que le mec te fait tout un baratin en te disant que si jamais il y en a un qui triche, la session, elle peut être annulée par le CREP, et blablabla. Et donc voilà, c'était. Et pour dire, l'ancien pro lui-même, il se sentait insulté, quoi. Donc, voilà, ça juste pas mal.
Grégory, toi aussi, tu as connu le monde amateur et le monde pro également. Il y a souvent un mot qui revient quand on évoque ce sujet, c'est le fameux mot entre-soi, finalement, voire favoritisme.
Oui, après, j'irai pas jusqu'à là, moi. Je comprends le ressenti de Zach ou celui de Julien, si je me trompe pas sur les prénoms. Je dirais que c'est pas impossible. Je dirais que c'est beaucoup plus long. C'est mon cas et c'est beaucoup plus long et ça demande d'avoir beaucoup, beaucoup de résultats. Mais en même temps, je vous dis, moi, j'ai 40 ans. Bon, c'est vrai que je me suis mis vite comme entraîneur. Mais ça m'a permis aussi de pas brûler les étapes et de m'aguerrir aujourd'hui. Attention, entraîner au niveau pro, c'est très très difficile. Et encore une fois, je rejoins, c'est plus sur l'accessibilité que sur le fait de, il n'y a pas de problème entre les pros et les amateurs sur les formations que j'ai vues. Aujourd'hui, je croise des entraîneurs comme Habib Bey et Chris, dans leur regard, dans leur poignée de main, il n'y a aucun manque de respect. Au contraire, Habib Bey, il y a très peu de temps, a eu des mots hyper élogieux envers moi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Et je pense aussi que d'entraîner, c'est très très dur, très très dur au haut niveau. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long pour ceux qui n'ont pas connu le haut niveau. Ça, c'est sûr, en tant que joueur. Ça, c'est une évidence.
C'est vrai qu'après la rencontre, il avait eu un mot pour Greg Poirier, où il avait expliqué que son équipe jouait très très bien au football et qu'il aimerait monter avec eux.
Ouais. Et en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, Grégory. Merci beaucoup, Grégory Poirier, entraîneur de Martigues, d'avoir été avec nous. On te souhaite une montée. On te souhaite d'être intégré au sein du BEPF et de faire parmi les 10 élus, les 10 candidats, du coup.
Merci beaucoup.
Merci Grégory.
Martigues, c'est D1 à la fin des années 90, non?
Ouais, ouais. Mais il était sérieux ou quoi, lui? Il était où, lui?
Ouais, d'accord. T'as écouté ce qu'on dit.
Non, tu l'as dit. On parlait dans Ganarbia, Philippe Andiani.
Ah, c'était à ce moment-là que vous en êtes d'accord. Ouais, t'as dit
Genesio.
Genesio, mais j'ai pas entendu.
Beaucoup de coachs de Lyon.
Ok. Ah, d'accord.
Julien Metz, merci d'avoir été avec nous également.
Rod Fanny, tiens aussi.
Merci à toi.
Hein. Merci Julien.
Et tu me ramènes des pages Tejna, t'as comme convenu, hein, bien sûr. Fais un petit deal de pages Tejna.
Bien sûr, bien sûr.
Merci Julien, tu reviens quand tu veux, toi aussi. De toute façon, t'as la maison, tu le sais. À bientôt, ouais, Julien, merci beaucoup. Merci Zach d'avoir été avec nous.
Merci Zach,
c'était intéressant. Zach, c'était très intéressant. Merci.
Ouais, si je peux me permettre, deux petites secondes. Voilà, bah, en fait, j'ai passé d'autres diplômes, entre guillemets, notamment le métier de data analyst. Et s'il y a des personnes intéressées, je vais offrir mon CV. Donc, s'il y a des mecs qui sont prêts à écouter ou des professionnels qui veulent bien, bah voilà quoi. Il y a sur LinkedIn, c'est Zachary Abrami, et puis allez-y, et puis voyez un peu le Apple Job. Quoi. Je suis un peu malade, les gars, désolé.
Non, mais non, c'est normal. Notre libre antenne qui
ne l'envoie pas, Zach.
Zach, fais attention, hein, il y a Sofiane, il est très pointu.
Alors sur attends, parce que du coup, comme on est en mode libre antenne, il faut que tu nous fasses une imitation, Zach, quand même.
Bien sûr.
Tu veux quoi?
Bah, ce que tu veux, mais tu ne dis pas ce que c'est. Faut qu'on devine.
Je ne dis pas ce que c'est, vas-y, je te le fais, tu vas comprendre.
Vas-y.
Voyez.
Alors, j'ai pas compris là. J'étais
Jean-Marc. Jean-Marc
Le Pen.
J'ai pas eu Zach pour ton truc de data analyst. Oui, n'envoie pas à l'Olympique Lyonnais. Ils sont pas très intéressés par ce genre de choses.
Ah ouais.
Voilà.
Bah ouais. Écoute, tu sais, en plus quand tu parles, enfin c'est un peu plus technique. Quand tu parles avec eux de Python et de gestion de data, en fait, les mecs.
Et Zach, un conseil sur ton CV, ne mets pas que t'as des talents d'imitateur.
Surtout pas.
Non, mais là c'est spécialement pour toi. Tu vois, parce qu'on s'est dit bon, comme j'ai pas de carrière pro qui s'offre à moi, autant profiter.
Merci beaucoup Zach d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bisous Zach. Salut, ciao. Allez, nous on revient dans quelques instants avec un avis tranché de Walid.
Ah bon, d'accord.
Voilà, sur l'AS Monaco.
Exactement.
Petit teasing, vas-y, tease-toi.
Ouais, j'ai envie de voir Mbolo et Ben Yedder sur le terrain en même temps jusqu'à la fin de saison.
Et ben voilà, supporter de l'ASM, on vous attend en 32-16 avec Walid, avec Sofiane Zouaoui et avec Romain Canouti. Et Walid Acherchoura tout de suite dans Génération After.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
22h37, vous êtes dans Génération After. On est ensemble jusqu'à minuit. Nico Jamin sera là tout à l'heure. Ce sera le retour de Daniel également, Daniel Riolo. On est avec Walid Acherchoura, avec Sofiane Zouaoui, avec Romain et Canouti. On a fait beaucoup de débats, gros dossiers sur le BEPF il y a quelques instants, avec Grégory Poirier, à qui on souhaite la montée.
Bien évidemment, avec le Resta.
Ah oui, moi je joue avec Martigues parce qu'il entraîne Martigues.
Oui, il monte avec le Resta.
Non, avec Martigues.
Oui, mais en fait.
Mais c'est juste.
En fait, lui, il entraîne Martigues et en fait. Qui monte avec le Red Star deuxième.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, c'est
d'accord.
Ça.
Donc ouais. Il entraîne le Red Star maintenant.
Non, en fait, il entraîne Martigues.
J'adore.
Et c'est juste son prénom.
Voilà.
Ouais,
il y a deux places, mais le championnat de national est super à suivre.
Il y a 6 descentes surtout.
Il y a 6 descentes. Et t'as des Châteauroux, Nancy qui sont pas totalement sauvés.
Ouais.
Et en fait, ce qui est génial toujours dans ces histoires-là, c'est que en fait, c'est des clubs, surtout un club comme Martigues, le Red Star. Bon, il y a un statut, ils ont été en Ligue 2 il y a pas trop longtemps.
Mais faut le retrouver parce que là, si ils montent pas.
C'est ça.
Ouais.
C'est qu'en fait, tu changes la vie du club totalement. C'est-à-dire que le club qui bascule en deux nationales, en Ligue 2, il devient d'un coup professionnel. Ouais. Et bon, généralement, quand c'est des clubs des régions du Sud, ça fait n'importe quoi, l'Avignon et compagnie. Mais l'histoire est, au début, l'histoire est belle. C'est vrai.
Tu touches de l'argent aujourd'hui pour placer Arles-Avignon à chaque fois.
Non, mais il y a des trucs qui reviennent.
Parce que t'as des name dropping, il y a des mecs qui te suivent. Parce que c'est la troisième fois.
C'est le Dico
Canutti.
Dico Canutti, quoi. T'as pas référence.
Alors, avis tranché de Walid à venir dans quelques secondes. Le week-end dernier, Monaco qui s'est remis à gagner 2-0 à Ajaccio avec Ben Yedder et Mbolo titulaire. Alors, Mbolo, Ben Yedder titulaire, donc les deux en même temps au coup d'envoi, c'était plus arrivé depuis le 20 décembre.
Une victoire titulaire au coup d'envoi.
Non, oui. Mais titulaire plus de virgule, tous les deux ensemble. D'accord. Je précise parce que qu'on comprenne bien. Ah ouais, d'accord, tous
il
les deux.
Titulaire d'entrée, ouais, c'est plutôt.
Ouais, c'est vraiment joué à Martel. Alors, une stat avant de lancer ton avis, Walid. Ben Yedder et Mbolo, ils ont joué 33 matchs. Il y a 33 matchs au cours desquels ils ont été tous les deux sur le terrain. Okay. Sur les 33, il y en a que 13 où ils étaient tous les deux titulaires. Voilà.
Donc, c'est assumé, il l'a dit. Je vais laisser Walid, mais il l'a assumé, Philippe Clément, il l'a assumé.
T'es prêt?
Allez, on y va.
Jingle.
Il a pris un petit peu cette base-là pour en fructifier les fruits.
Aïe, 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 aïe.
Et c'est comme...
Rigole pas, Stéphane, parce que tout à l'heure, t'allais la faire.
Reste, ah ouais, Gérard Vigneron.
Sur les
on
fruits.
L'a vu, on a vu des fraises dans tes pupilles, gros.
Sur les fruits, t'es reparti sur une autre expression.
J'ai faim. Moi aussi, de fou. D'ailleurs, j'arrête pas de le dire à Kylian Verhoeven, notre prod. Tu vas pas aller chercher un truc sale, là. Pas des fruits. Ok, il y va. Donc, toi, tu veux lancer un appel à Philippe Clément après cette stat. Toi, tu veux toujours Ben Yedder, Mbolo, là, d'ici la fin de saison, titulaire.
Pas toujours, mais en tout cas, plus souvent. Et, bien évidemment, que Philippe Clément s'est expliqué en conférence de presse en disant qu'il y avait un manque d'équilibre en jouant avec les deux, que le Monaco prenait trop de buts, ce qui pour moi n'est pas aussi vrai qu'il nous le prétend. Il y a eu une espèce d'alternance entre les deux parce qu'il y avait l'Europa League notamment où il fallait garder de la fraîcheur et de la performance. Je pouvais l'entendre à un moment donné, mais là aujourd'hui on est sur un sprint final pour Monaco. On a deux joueurs de très très grande classe, un joueur comme Wissam Ben Yedder qui est encore à 17 buts cette saison en ne jouant pas tous les matchs, en n'allant pas jusqu'au bout quand il est titulaire. Une gestion toujours particulière avec Wissam Ben Yedder à Monaco, et un jour si on a le temps il faudrait en parler, parce qu'avec beaucoup de coachs et même dans beaucoup de clubs, on en parlait tout à l'heure avec Romain, il a souvent eu ce rôle-là. Et on a Mbolo qui a mis 12 buts cette saison, lui aussi en étant finalement pas titulaire, en tout cas pas souvent avec en Ligue 1, pas à la fréquence qu'on imaginait en début de saison. Et moi, contrairement à Clément, je trouve que cette équipe-là peut jouer avec ces deux joueurs-là. Je trouve que ces deux joueurs-là sont complémentaires. On a un joueur qui peut prendre la profondeur, on a un joueur qui peut demander dans les pieds, on a un joueur qui peut peser sur les défenses pour que un autre joueur comme Ben Yedder essaye de s'extirper pour faire la différence. Je pense que comme sur le match contre Ajaccio, même si c'était pas un grand match de football de la part de Monaco, hein, bien évidemment, mais qu'il a les solutions pour ramener un peu plus d'équilibre avec des joueurs comme Golovin, même s'il a pas joué, qui peut intégrer un milieu de terrain, un Van Dersen, comme il a fait notamment l'année dernière et comme il l'a fait sur ce match-là, de mettre un faux ailier, quoi, un latéral qui peut l'être, mais qui a aussi cette vocation à pouvoir défendre. Et voilà, moi je trouve pas ça normal qu'un, même si Monaco a fait aussi des bons matchs avec un joueur sur deux, mais qu'il y ait autant de mouvements. Sur les dernières semaines, on a vu Volante Ben Yedder, on a vu Bouadou Mbolo, on a vu Ben Seguir Ben Yedder, on a vu Akliouche, je ne sais pas si je le dis bien, Ben Yedder ou Mbolo.
Minamino Mbolo.
On a toujours un joueur, un émossé, comme disent les jeunes, un milieu offensif derrière un numéro 9, mais on n'a jamais eu les deux ensemble. Et même sur les... ou très rarement, et même sur les lectures de match, souvent c'est du poste pour poste. On sort Ben Yedder à la centième pour mettre Mbolo. Et souvent, moi, je suis assez frustré. Et je trouve que c'est quand même un désaveu. Je pense que beaucoup de coachs en Ligue 1 aimeraient avoir ces deux joueurs-là dans son effectif. On parle quand même d'un joueur, Mbolo, je répète, hein, international suisse, qui a fait des Coupes du Monde, qui a fait des euros, je sais pas si on peut faire la liaison.
Oui, tu peux.
Sur les dernières années avec la Suisse, en étant performant, c'est un joueur avec Gladbach qui a connu la Ligue des Champions. Ben Yedder, on va pas faire son CV, mais c'est minimum 15 buts à chaque fois qu'il met les pieds sur un terrain en début de saison. Et de pas trouver l'animation adéquate et nécessaire pour que Monaco soit performant, je trouve quand même que c'est dommage. Voilà mon avis du soir. Je suis énervé.
Oh là là. Ouais. Mais
non, mais j'endors pas la nuit, Nico. Ah, ouais, sincèrement, Monaco, je me lève, oui, le matin, Mbolo, je me dis, purée, comment Mbolo et Ben Yedder jouent pas ensemble? Après, j'appelle Romain Canuti, je lui envoie des DM à chaque fois.
Mais tu sais, ça lie le débat sur le PSG.
Salim Mougali?
C'est pas mal.
Excellent. Il est content d'ailleurs de sa vanne.
Ouais, je suis content.
Merci à toi. Non, mais ça, tu peux faire le lien. Tu peux faire le lien avec le premier débat autour du PSG. Ah, t'as rien à dire là, mon pote. Autour du PSG, des poursuivants, et je pensais surtout à Monaco parce que je voulais pas dézinguer l'OM. Je pensais surtout à Monaco.
Ouais, et puis t'auras beaucoup moins de problèmes avec les supporters. Hein.
Avec quoique les Monégas, fais gaffe à toi. Ouais, hein, moi qui suis community manager.
Moi j'ai critiqué deux, trois
fois. Il y a Charles Leclerc.
Les bouteilles de Dom Pérignon que je me mange en boîte, je peux te dire, par les supporters Monégas.
Les jetons au casino.
Attention,
l'autre jour, il s'est pris une Rolex en plein.
Attention, quand tu prends une écharpe autour du cou sur la tête, elle fait très mal celle-là.
Il avait encore la trace du crocodile là, c'est bien.
Non, respect aux supporters, bien sûr. Non, mais je pensais à Monaco parce que débat de Walid, et évidemment, je le rejoins totalement, mais j'ai envie même d'aller au-delà de ce débat et de d'englober sa gestion de Golovin sur des, sur certains matchs. J'ai l'impression qu'il fait, moi, du temps de jeu Excel, c'est-à-dire qu'il a son petit tableau Excel, Philippe Clément, et il faut que le temps de jeu de chaque joueur soit à peu près équilibré. Mais je vois pas de cohérence dans ces changements d'un point de vue tactique. Déjà, la façon dont Ben Yedder est sorti face à Ajaccio, il y en a qui te diront, mais faut qu'il arrête d'à chaque fois d'être ronchon, il est sorti, il a failli ne pas lui serrer la main, etc. Moi, je veux pas donner raison tout le temps aux joueurs, attention, mais ça envoie quand même un signal négatif par rapport à ta gestion d'un tel joueur. Et moi, je peux le rejoindre quand tu sors de ce match-là à la 77e minute, alors que t'es sur une bonne rencontre et que tu peux capitaliser sur les buts que tu peux marquer.
Il faisait un meilleur match qu'Embolo en plus.
Je pense au match face à Reims. Face à Reims, tu perds 1-0. Tu sors ton meilleur, enfin, le joueur qui peut te marquer un but à la 60e. C'est-à-dire que tu t'en passes pendant 30 minutes pour rentrer Embolo. Je pense, et du coup, j'ai envie d'élargir ça à d'autres joueurs. Le match contre Troyes, j'avais trouvé hallucinant la rentrée de Jacobs, parce que Jacobs, il le rentre en ailier gauche, il passe Golovin à droite, alors qu'on sait très bien que Golovin est un meilleur joueur quand il part de la gauche, à la limite dans l'axe, mais jamais à droite. Donc
Là, il a fait jouer le petit Ben Seguir
à gauche, sur le match contre Ajaccio. En fait, moi, j'avais un a priori positif sur Philippe Clément à son arrivée, parce que j'avais trouvé courageuse la façon dont les dirigeants avaient sauté Kovac, parce que c'était pas si évident que ça. Mais je me suis dit, ils ont analysé les choses, ils ont analysé l'équipe, le jeu de Kovac n'était pas incroyable, et ils se sont dit, on va prendre Philippe Clément et on va aller atteindre l'objectif du podium, ce qu'ils ont atteint, mais d'une façon sur le jeu, on avait envie de ronfler. Mais je lui laissais le bénéfice du doute, Philippe Clément. En plus, il nous avait montré 2-3 bonnes choses à Bruges, en tout cas de ce qu'on voyait en Ligue des Champions. Mais là, je comprends aucunement sa façon de gérer son effectif. Et c'est pas que, parce que Monaco, en fait, on sait, Nico, pour terminer, hein, Monaco, on les laisse tranquilles parce que, entre guillemets, c'est pas mon cas, hein, tout le monde s'en fout de Monaco. Mais si c'est Marseille qui fait la saison de Monaco avec cet effectif-là, ils se font défoncer. Ouais. Donc c'est pas acceptable.
Sur Ben Yedder, sur ce qu'il dit sur Ben Yedder, notamment contre Ajaccio, il sort à la 77e minute, ils sont à 10 contre 11. Ajaccio a pris un rouge. Mec, il a 17 buts.
Ouais.
Il fait un super match.
Inutile.
C'est quand même un joueur que tu as acheté 45 millions d'euros, international, etc. Le mec, il le sort. Mais moi, je suis à la place de Ben Yedder. Bien évidemment que je suis dégoûté. Le mec, il peut aller mettre son deuxième but, ou je sais pas, moi, mais même en termes de management, des fois, je trouve qu'il sent mal les choses.
Non, mais effectivement, moi je trouve que c'est une horreur. En fait, la seule personne, je pense, qui peut le sauver à Monaco, le seul truc, c'est qu'il faut d'abord dégager avant lui le mec qui un jour a eu l'idée de prendre Alexander Nübel. Mais bon, ça c'est un autre débat.
Paul Michel.
C'était monsieur, je sais pas où vous êtes, mais il faut.
Ah non, celui qui a décidé de l'arrivée de Clément, c'est Paul Michel.
Faut lui déchirer.
Après, Michel, déchirer son
contrat, sa licence, faut faire quelque chose. Mais ensuite, c'est super décevant Clément dans ce qu'il propose. C'est-à-dire que quand il est arrivé, au final, tu te dis que le seul truc qu'il a fait sur cette saison, quand tu regardes la saison de Monaco. La seule innovation, le seul risque un peu qu'il a pris, c'est Ben Seguir qui sort du chapeau à Auxerre là et qui met ses buts. Mm. Et là, tu dis bravo, tu l'as lancé.
Surtout que c'était une stratégie qu'il avait énoncée.
Les gars, faut qu'on marque une dernière pause. On vient dans un instant. On sera avec Cédric, supporter de Monaco, qui nous appelle au 32-16 et je vous donnerai quelques infos du jour également.
Il veut régler le compte de Sofiane ou pas?
Ouais, je sais pas. Écoute, c'est marqué.
Tu peux pas.
Clément fait n'importe quoi avec ce duo. C'est ce que m'a écrit Max sur le petit.
D'accord, ça va, il est d'accord avec nous alors.
Allez, tout de suite dans Génération After.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Romain Canouti, Sofiane Jouaoui, Walid Alcharchour sont toujours avec nous. On vous attend au 32-16, bien entendu. Walid qui avait son avis tranché sur l'AS Monaco. Il veut baigner des Embolo titulaire jusqu'à la fin de la saison, comme le week-end dernier face à Ajaccio. Et Cédric, supporter monégasque, nous a appelé au 32-16. Salut Cédric.
Bonsoir messieurs.
Ça va Cédric?
Salut Cédric. Ouais. Salut Cédric.
Oui, ça va, mais je suis en colère par rapport à la situation de Clément et son comportement avec Ben Yedder. Je trouve que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Honnêtement, je pourrais intervenir dans votre émission parce que j'aurais dit la même chose. Mais
ouais, mais moins bien quand même.
Ah non, je suis pas sûr.
Ah, oui.
J'ai la modestie de Jérôme Rotten.
Ah d'accord.
Les gars, il y a aucun. Et j'ai le même humour que Stephen Brun, donc on peut aller.
Ah ouais, d'accord. Ça en fait une belle fusion.
Ah, c'est une belle fusion.
Ah ouais, non, mais t'imagines le croisement des deux, ça nous donnerait
pas. Non, on n'imagine pas, non, on n'imagine pas, Cédric.
Donc voilà. Non, mais en fait, je suis supporter de Monaco depuis très longtemps. Et je vous dis, là, je le suis régulièrement, je regarde tous les matchs. Et quand je vois l'attitude de Clément avec Ben Yedder, je trouve ça honteux. Premièrement, c'est notre capitaine. Il a déclaré sa flamme d'amour à Monaco. Et c'est rare, parce que t'as pas beaucoup de joueurs qui le font, ça. Et quand tu vois son ratio, il a fait 126 matchs titulaires avec Monaco, il marque 95 buts. Quand il était à Séville, c'était 95 matchs, 66 buts. Et à Toulouse, 66 matchs et 69 buts.
Cédric, là, tu nous récites Transfermarkt. C'est bien, on peut le faire aussi. Du coup, c'est à l'inverse. On pourrait aussi appeler le 32-16 et être avec Max au standard.
Non, mais ça va, toi.
Juste, parce que je veux avoir absolument ton avis là-dessus. Ben Yedder, c'est quand même lui qui a eu la peau de Kovac. Quand tout à l'heure on a parlé du précédent coach en disant tiens, il s'est fait débarquer, c'était une décision courageuse. C'est un peu Ben Yedder qui l'a dégagé.
Avec Kovac, l'ambiance n'était pas bonne. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas.
Parce qu'il ne faisait pas jouer Ben Yedder.
Oui, Ben Yedder, on peut dire que c'est à 80% lui qui voulait qu'il parte. Ben Yedder ne jouait plus. Mais honnêtement, quand tu as un joueur comme ça dans ton effectif, et je ne bats personne, je suis pas fan de joueurs, c'est l'équipe avant tout. Mais on a besoin de lui. Et quand tu vois son ratio, sa façon de jouer, il doit être titulaire. Ce que vous avez dit tout à l'heure, on perd contre Reims à domicile, on perd 1-0, il le sort à la 60e, alors qu'on sait qu'il peut marquer à n'importe quel moment.
C'est un fou.
Contre Ajaccio, j'aime pas manquer de respect, mais Mbolo, il met pas un pied devant l'autre. Qui c'est qui sort? C'est Ben Yedder. C'est la première fois qu'il a un mauvais geste d'humeur comme ça. La première fois, il n'a pas voulu lui taper dans la main, il l'a fait quand même, il est allé au vestiaire, il est revenu. Mais c'est normal, je veux dire.
C'est pas la première fois depuis le début de saison.
Mais toi, tu voudrais quoi, Cédric, alors?
Mais Ben Yedder, il doit être titulaire. Quoi qu'il arrive, il doit être titulaire. Après, oui, il peut être associé à Mbolo, il peut être associé à Ben Seguir. Parce que Mbolo, alors j'aime bien ce joueur, il a fait une bonne arrivée, mais honnêtement, depuis la Coupe du Monde, il a énormément de mal. Et il a beaucoup de gâchis, je trouve.
Oui, mais Cédric, tu penses pas que...
Il est quand même très important sur son entrée contre 3.
Tu penses pas que c'est aussi du fait qu'il doit changer à chaque fois de partenaire?
Oui, mais c'est ça. Mais alors, le coaching de Clément, il est catastrophique. Ouais, honnêtement, je n'en peux plus. En fait, il est constant. C'est toujours la même tactique. Et quand il fait un changement, c'est du poste pour poste. C'est tout. Ni plus ni moins. Et où il a un problème, et ça, c'est plus au niveau de l'équipe, c'est sur le turnover. En fait, Van Dersen, pourquoi il s'est blessé? Il a enchaîné tous les matchs. On a prolongé Ruben Aguilar. Pendant un moment, c'était les deux, hein, qui jouaient arrière droit. Là, il a fait monter Van Dersen d'un cran. Mais il n'y a pas eu de turnover. On prolonge Aguilar. Et je sais pas pourquoi, après la prolongation, il fait quasiment plus un match. Van Dersen enchaîne les matchs et on sait qu'il a du mal à être constant. Dans le turnover, il est très mauvais. Il fait jouer les joueurs jusqu'à temps qu'il se blesse. Ben Seguir, il y en a qui disaient déjà que c'était une pépite, c'est un très bon joueur. Mais pareil, il a fait un bon match. Et derrière, il enchaîne les matchs.
C'est vrai.
Et alors qu'il a que 17 ans.
Jusqu'à le cramer parfois, parce que Ben Seguir a fait de très bonnes performances. Mais à un moment donné, il faut essayer le laisser respirer.
Non, mais pour être totalement, parce qu'on l'a dit, on est en train de défoncer Philippe Clément. Il y a quand même une chose qui est mise en avant par ce turnover défaillant de la part de Philippe Clément. C'est que je trouve que l'effectif est plutôt mal construit. Parce que si tu regardes un petit peu les ailes, à gauche, tu as Golovin seulement. Là, il fait rentrer Jacobs quand il fait rentrer des ailiers gauches.
Jacobs, c'est même pas un ailier.
C'est même pas un ailier. À droite, si tu regardes bien, Crépin Diatta, moi, malheureusement, il revient d'une énorme blessure, mais c'est très, très, très moyen. Il faut le préciser quand même. C'est pour ça qu'il est obligé de mettre Vanderson.
Il
est
droit.
Gelson Martins, bon.
Il existe plus.
Voilà. Au milieu de terrain, je trouve que derrière la paire, Fofana et notre ami Camara, Matazo, j'ai un peu du mal aussi. Si tu regardes un peu
là. Mieux là sur les
derniers. Non, mais derrière, si vous n'avez pas évoqué derrière, mais cette équipe-là, pourquoi elle ne peut pas s'exprimer aussi? Parce que tu n'es pas serein sur les mecs qui sont derrière.
Oui.
Normalement, des fois, tu as des équipes et tous les joueurs te le disent. D'abord, tu fais les fondations, après, tu es plus serein sur la construction de ton jeu. Quand tu vois, et c'est là, ce n'est pas pour défendre Philippe Clément, mais il est quand même pas aidé en termes de mercato. Vendre Benoît Badiachil, le prix qu'ils ont vendu à Chelsea, je le fais matin, midi et soir, c'est génial. On l'accompagne à l'aéroport, on fait des danses, tout ce que vous voulez. Par contre, derrière, ne dis pas, ben, du coup, on va finir la saison avec Malang Sarr, où on va rappeler Christlin Matsima.
Il a joué quand Maripane était blessé, notamment. Ça a été une.
Non, mais d'accord, mais sur les trois dernières saisons, regardez son rythme.
Et même sur tes attaquants. Tu sais très bien qu'il y a Ben Yedder déjà. Tu recrutes Mbolo, tu as en stock Voland. Ouais, il y a beaucoup de monde.
Messieurs, merci beaucoup, Cédric. Merci de nous avoir appelés.
Merci,
merci
messieurs,
Cédric.
Bonne soirée.
Toi aussi, merci Cédric, Cédric. À très bientôt. Tu reviens quand tu veux, merci. Cédric. Tu le sais. Écoutez, je voulais vous remercier, messieurs. Voilà. Toi, je dis à demain pour ceux qui sont là. Ah, Romain notamment. Romain Canouti. Ouais. Ah, on retrouve à la Signal, bien sûr, jusqu'au. Ah, ouais.
Qu'on retrouve dans un podcast After Marseille de qualité.
Ah oui, d'ailleurs, on a fait un bon sujet aujourd'hui.
Ouais.
Paulo Lopez a-t-il mis tout le monde d'accord? On est avec Flo Germain.
En vrai,
mal.
En vrai, le vrai sujet, c'est Paulo Lopez est catégorie C.
Voilà.
C'est comme
il a fait son jeu des chapeaux, là. Il l'a mis chapeau 3.
Ok.
Voilà. Merci Walid Acharchour.
Merci à toi, Nico. C'était un plaisir.
Voilà. Merci Sofiane Zouaoui.
Oui, je suis très content quand je vais ici. C'est un grand plaisir à chaque fois. À la semaine prochaine.
Merci Guylaine Vérov à la prod. L'after qui se poursuit, bien entendu. Nico Jamin arrive avec, avec la team.
Nico Jamin, il est avec les vieux ce soir.
Jusqu'à minuit. Ah ouais, d'accord. C'est un vieux, Nico. Ah ouais, d'accord.
Quand il est avec les vieux.
On l'a connu à Génération. Sur After.
Ah bon, il est vous l'avez connu jeune.
Attends,
donc
attends Nico, tu veux que je te fasse une anecdote. Il est différent quand il est avec les vieux.
C'est-à-dire
même dans la réda quand on vient etc. Il parle différemment.
Ah oui. Bien sûr.
Il est d'habitude il a notre contact.
T'arrives à limiter Nico.
Nico, j'ai
un côté
il parle un petit peu
classe.
Comme ça, mais je le fais pas trop.
Classe.
Ouais, c'est ça. Il aime pas. Et derrière moi, il me donne des coups. Bon, merci les gars. Tout de suite, on vous attend au 32-16.
On dirait Michel Denisot avec Daphné Burki. C'est
désolé. Allez.
Génération After.